Jean de la Brette, un caractère de française. Chapitre 1. Dans les allées d'un parc où deux femmes en deuil étaient assises, les feuilles tombées couraient, chassées par une brise subite qui passait comme une caresse. Elles semblaient craindre de troubler le recueillement d'une douleur. Les tons du ciel auraient désespéré la palette la plus délicate, des parfums d'automne flottaient dans l'air léger, et la douceur de cette journée calmait l'agitation de Mademoiselle de Kerdivaux pour ne lui laisser que l'impression d'un vide déchirant. Plus tard, elle se rappela les moindres détails de ces heures calmantes en souriant des poètes qui établissent une corrélation entre les événements de la vie humaine et les forces paisibles ou déchaînées de la nature. Une paix bienfaisante pénétrait dans le cœur de femmes attristées, et quelques minutes encore, leur vie, déjà douloureusement frappée, allait être bouleversée. Madame de Kerdivaux, frileusement enfouie dans un grand manteau, songeait au passé qui, 8 jours auparavant, s'était fermé sur la tombe de son mari. Délicate et souvent malade, elle paraissait destinée à partir la première, mais elle résistait avec souplesse aux orages et la mélancolie qui, depuis quelques années, donnait au grand air de Monsieur de Kerdivaux une nuance adoucie, presque touchante, ne se retrouvait pas dans l'expression de sa femme. Le marquis de Kerdivaux, grand seigneur, aimable, courtois, prenait autrefois légèrement la vie, malgré des moments de tristesse qui devinrent plus fréquents en vieillissant et l'enveloppèrent peu à peu d'un nuage sombre que sa fille observait avec étonnement. Elle se disait qu'en approchant des confins de la vieillesse, son père ne se consolait pas de voir son nom tomber en quenouille et songeait plus fréquemment à la mort tragique de son unique fils. Jamais il n'avait parlé de ce malheur avec sa fille, mais la marquise avait raconté bien des fois en pleurant le terrible accident. L'enfant, sur le désir de son père, sortait chaque matin avec un valet de chambre, homme de confiance, au service du marquis depuis 10 ans. Un jour d'avril, personne ne rentra. Le soir, la police, prévenue par M. de Kerdivaux, trouva dans la banlieue le domestique désespéré qui n'osait plus revenir chez son maître. Il raconta que, très fatigué, pendant que le petit Pierre, alors âgé de 4 ans, jouait auprès de lui, il s'était endormi sur un banc du cours La Reine, à quelques pas de la pente qui conduisait à la Seine. En se réveillant, il chercha vainement l'enfant, dont le désir tenace était de descendre sur la berge du fleuve, caprice auquel le valet de chambre n'avait pas cédé. D'après ce récit, la police supposa avec raison que Pierre de Kerdivaux, voyant son gardien endormi, s'était empressé de suivre son idée et qu'il était tombé dans la Seine sans que personne l'ait aperçu. Néanmoins, des recherches actives furent commencées et le valet de chambre, dont M. de Kerdivaux répondait, ne fut pas inquiété. Mais congédié aussitôt, il mourut peu d'années après le malheur provoqué par sa faute. La marquise, quoique d'une grande douceur de caractère, ne parlait jamais, sans une âpre amertume, de ce serviteur négligent. Malgré l'invraisemblance d'un enlèvement, elle conserva beaucoup d'espoir pendant les recherches, mais le fils du marquis de Kerdivaux ne pouvait pas disparaître sans que l'événement fît grand bruit, et tous les journaux indiquèrent la prime élevée offerte à celui qui ramènerait l'enfant, si, contre toute évidence, il était encore vivant. La marquise dut bientôt accepter la vérité. Le temps apaisa naturellement sa douleur, et les impressions violentes de ce moment cruel devinrent un souvenir mélancolique qui s'associa aux premières pensées de Mademoiselle de Kerdivaux, car si le marquis ne parlait jamais de son fils, Madame de Kerdivaux ne cessa que fort tard de rappeler son chagrin. Diane de Kerdivaux vint au monde 1 an après la mort de son frère, et sa naissance fut une déception qui se compléta lorsque les années décidèrent que le nom de Kerdivaux s'éteindrait définitivement. La nouvelle existence du marquis répondait en apparence à ses goûts. Cependant, Diane s'étonnait qu'un homme aussi brillant eût abandonné la vie parisienne. Mais quand elle le questionna, il lui répondit presque violemment, chose très contraire à ses habitudes, et la marquise confia à sa fille que pas une fois depuis la mort de son fils, M. de Kerdivaux n'avait voulu séjourner à Paris. Leur hôtel du parc Monceau ayant été immédiatement vendu, Ils s'étaient installés complètement dans le manoir où Diane devait naître quelques mois plus tard. La propriété, très négligée jusque-là, fut remise en état et, sous la direction d'un goût expérimenté, l'habitation délabrée devint une demeure charmante. L'heureuse enfance de Diane et sa jeunesse s'étaient passées, à part de grands voyages, dans la Bretagne qu'elle aimait. Elle atteignit l'âge de 30 ans sans consentir à changer de vie. Le marquis n'insistait jamais pour qu'elle acceptât des propositions de mariage et lui savait gré, pensait-elle, de se plaire autant à Kerdivaux. La marquise, au contraire, se désolait des refus de sa fille, mais Diane lui répondait en riant qu'elle entendait vivre puis mourir au milieu de ses bois et de ses rochers, l'image du bonheur ne sortant pas pour elle de ce cadre aimé. Peut-être un peu de misanthropie inspirait-elle ses goûts, car les jugements trop souvent sévères de M. de Kerdivaux avaient influé sur l'orientation de ses tendances et de ses idées. Assez grande, élégante, avec un visage irrégulier mais joli, elle eût été très plaisante sans un franc-parler qui la faisait redouter et parfois une brusquerie en anomalie avec son éducation. Mais derrière ses défauts se cachait un grand cœur, l'amour des noblesses de la vie, un caractère élevé et décidé. Pointilleuse sur la délicatesse, passionnée pour le sentiment d'honneur traditionnel dans sa famille, elle s'appropriait les définitions d'Alfred de Vigny, dont les belles pages la ravissaient. L'honneur, c'est la conscience, mais la conscience exaltée. C'est le respect de soi-même et de la beauté de sa vie, porté jusqu'à la plus pure élévation et jusqu'à la passion la plus ardente. Cependant, elle lisait peu, n'étant point une intellectuelle, et n'aimait que les livres qui l'obligeaient à réfléchir. Elle avait beaucoup voyagé avec le marquis et son intelligence s'était surtout développée au contact des choses vues. Toutefois, elle réservait dans le fond de son âme un coin pour la rêverie, quoique dans un autre temps, toutes ses qualités eussent été celles d'une femme d'action. Elle avait une grande influence sur ses parents, qui, selon leurs caractères différents, s'appuyaient sur le bon sens naturel de leur fille. Diane, lui dit tout à coup sa mère, nous serons à présent bien isolés. Ne crois-tu pas que nous devrions passer nos hivers loin d'ici? Pourquoi? Nous avons en Bretagne nos habitudes, nos souvenirs, nos amis. Je me consolerai difficilement de quitter le cher Kerdivaux. Un sourire satisfait, le premier depuis quelques jours, éclaira le visage de la marquise. Tu penses comme moi. Mais quel regret, Diane, que tu ne sois pas mariée.
Je le regrette moins que jamais, croyez-le bien. D'autant que vous avez besoin de moi, ma chère mère.
Ton mari eût été un bon conseiller. Ni toi ni moi n'entendons rien aux affaires. Madame de Kerdivaux ignorait les soucis matériels et ne se reconnaissait aucune aptitude administrative. Son mari s'était imposé la loi de lui éviter le moindre ennui, de la bercer dans la douceur d'une existence sans épines. Diane blâmait cette manière d'agir en se disant qu'elle n'eût pas aimé un tel rôle dans sa maison et que, devant une épreuve, sa mère serait désarmée.
« Ah, si ton frère avait vécu !» reprit Madame de Kerdivaux. « Quelle différence ! Un homme de 35 ans est un chef de famille, un soutien !»
Nous vous soutiendrons nous-mêmes, et si la direction de nos affaires vous fatigue, je la prendrai en main.
Tu ne l'as jamais fait, tu n'auras aucune expérience.
Tous ceux qui ont appris ont commencé, j'apprendrai comme tant d'autres. L'idée fugitive de quitter la Bretagne troublait Mademoiselle de Kerdivaux. Les rares hivers passés en entier à la campagne ne lui avaient paru ni tristes ni longs, et le voisinage d'amis qui pensaient comme elle lui suffisait. Surtout, elle préférait retrouver son deuil, non dans l'agitation d'un voyage, mais dans les détails de la vie habituelle.
Diane, n'oublions pas les lettres de fermier reçues ce matin. Il faut que nous ayons le courage d'entrer dans le cabinet de ton père et de chercher les baux.
Désirez-vous que je m'en charge?
J'irai avec toi.
Mais la voix de Madame de Kerdivaux hésitait.
« Eh bien, chère mère, allons maintenant. Nous avons déjà tardé et il est nécessaire de se mettre au courant des affaires. »
Madame de Kerdivaux attendit encore avant de prendre le bras de sa fille,
Puis, se décidant, elle revint lentement au manoir. Le soleil d'automne en dorait les tourelles, le grand perron et toute la façade cachée jusqu'à mi-hauteur par des myrtes et de hauts rhododendrons. La maison, très irrégulière, plaisait à Diane, comme jadis elle plaisait à tant de Kerdivaux qui avaient donné dans le pays l'exemple de l'honorabilité et des goûts sérieux, jusqu'au moment où, attirés vers une vie extérieure plus brillante, ils avaient fermé leur maison sur les vieux souvenirs. Le dernier marquis reprit les traditions bienfaisantes de sa famille avec les habitudes élégantes que ses ancêtres n'avaient pas connues. Il se fit aimer des paysans qui, malgré son nom, le regardaient d'abord avec quelque défiance. Mais son aménité et sa générosité dissipèrent promptement de vagues préjugés. En mourant, il laissait intactes les traditions élevées dont, à bon droit, Diane était fière. Chaque jour, elle et sa mère recevaient les nombreux témoignages des sentiments que le marquis avait inspirés et découvraient chez beaucoup une reconnaissance motivée par des bienfaits que, jusqu'alors, elles ignoraient absolument. Ces pensées gonflaient le cœur de Mademoiselle de Kerdivaux en pénétrant dans la maison où partout son père avait mis une élégante empreinte. Elle appréhendait d'entrer dans le cabinet de travail où elle savait le retrouver si vivant et si loin d'elle. La pièce, haute de 5 mètres, prenait tout le côté d'une aile que le marquis avait fait construire. Elle était éclairée à chaque extrémité par une large baie. Au nord, la vue se reposait sur des bois. Du côté sud, celui que préférait Diane, un jardin s'étendait fort loin, à quelques toises seulement de la falaise et de la mer qui bornait l'horizon. Les murs étaient ornés de tapisseries, représentant des paysages dans lesquels se promenaient de grands oiseaux qui avaient charmé l'enfance de Diane. 2 larges bibliothèques, ménagées dans l'épaisseur du mur, entourées de bois naturels finement sculptés, contenaient des livres magnifiquement reliés. Des œuvres d'art en petit nombre, mais exquises, des meubles anciens, complétaient l'aspect séduisant du cabinet. Que de fois Diane était venue s'asseoir près de son père et jouir avec lui d'un arrangement qu'elle ne cessait d'admirer. Un chevalet supportait un beau portrait de Madame de Kerdivaux. Les yeux doux suivaient tous les mouvements de ceux qu'elle aimait, et le marquis répétait qu'il se passerait difficilement de la chère image qui, lorsque Madame de Kerdivaux était absente, lui donnait l'illusion de la voir toujours auprès de lui. Ses souvenirs et tant d'autres enveloppèrent les deux femmes comme un réseau qu'on ne peut briser. Diane se disait que chacun connaît les mêmes impressions lorsque, dans la chambre d'un disparu, on voit les objets à la même place, la plume posée comme elle a été laissée, les papiers dans le même ordre, un conte inachevé, tous les signes d'une vie intime qui n'est plus. Madame de Kerdivaux paraissait assez impressionnée pour que sa fille dissimulât sa propre émotion. « Nous avons raison, dit Diane, de surmonter enfin ce qu'il est impossible d'éviter. »« C'est vrai, mais je n'ai pas ta force. » Diane sourit tristement, car son courage actuel consistait à cacher sa faiblesse à Madame de Kerdivaux. Cependant, le moment le plus pénible était passé. Peu à peu, la marquise se remit. Elle alla d'un objet à un autre, rappelant des fêtes dont elle gardait un tendre souvenir, et finit par s'écrier « Comme autrefois, nous vivrons surtout ici, n'est-ce pas, Diane ?» Mademoiselle de Kerdivaux inclina la tête, elle n'aurait pu parler, et s'approcha de la large baie, où, par certains vents du large, on entendait gronder la mer aussi distinctement que si les lames se brisaient sur les murs du manoir. Bien souvent, assise sur le rebord de la fenêtre, Diane attendait le retour de son père, qui, monté sur son cheval favori, choisissait toujours la même allée afin de jeter un mot aimable en passant. Elle le voyait encore apparaître près d'un grand marronnier en soulevant son chapeau avec la grâce courtoise qui charmait sa fille. Elle comprenait admirablement que, malgré la différence d'âge, sa mère eût épousé le marquis de Kerdivaux. La différence de fortune était beaucoup plus grande, mais que signifiait l'argent, pensait Diane, comparé aux qualités d'un gentilhomme accompli. La courtoisie de M. de Kerdivaux se démentait rarement dans l'intimité, et la marquise disait avec fierté que son mari n'avait jamais été de ceux qui laissent, au seuil de leur maison, les dons qu'ils ont prodigués au dehors. Avant de se marier, ajoutait-elle, comme beaucoup d'hommes, il aimait passionnément le jeu. Il l'aimait assez pour qu'on s'opposât à mon mariage avec lui, mais je n'ai rien écouté et j'ai bien fait, car du jour où il m'a aimé, il s'est corrigé. Il l'avait bien prouvé en venant vivre, jeune encore, au fond de la Bretagne. Ses pensées traversaient la tristesse de Mademoiselle de Kerdivaux pendant qu'elle écoutait le bruit de la mer qui, dès son enfance, se mêlait à ses moindres impressions.
« Diane, n'oublie pas les beaux !»«
Je viens !» Elle s'approcha du grand bureau, dont la forme particulière et les cuivres ciselés excitaient l'admiration des connaisseurs.